France Musique. Musicopolis. Jamais sans musique, le siège est la Commune de Paris. Chapitre 4, les débuts de la Commune. Fin janvier 1871, les Parisiens sont assiégés depuis 4 mois et demi. Les denrées manquent, le charbon, le gaz, le bois aussi. Il fait froid. Les canons allemands tonnent sans cesse. Le peuple de Paris veut continuer à lutter. Il veut que le gouvernement fasse plus et mieux pour défendre la ville et le pays. On lit dans la revue et gazette musicale. Et puis, ô jour néfaste, tout fait silence. Le moment psychologique est arrivé. Du matin au soir, du soir au matin, on n'entend plus que la voix lugubre du canon. Le bombardement poursuit son œuvre destructrice. Après tant de sang et de larmes, après tant d'effondrements et de ruines, d'épouvantes et de tourmentes, survient la fin lamentable. Et le vent des belles soirées du printemps apporte à Paris l'écho poignant des fanfares étrangères. Le journal officiel du 28 janvier 1871 publie une adresse de membres du gouvernement aux citoyens pour justifier l'armistice plutôt mal pris. Paris, lit-on, veut être sûr que la résistance a duré jusqu'aux dernières limites du possible. Les chiffres que nous donnerons en seront la preuve irréfragable et nous mettrons qui que ce soit au défi de les contester. Nous montrerons qu'il nous reste tout juste assez de pain pour attendre le ravitaillement et que nous ne pouvions prolonger la lutte sans condamner à une mort certaine 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants.
Bismarck n'est pas en peine d'affamer les Parisiens. Nous demande la Lorraine, l'Alsace et les Alsaciens. La honte pour nos soldats, des milliards à son service. Oh zut à ton armistice, Bismarck, nous n'en voulons pas.
L'adresse du gouvernement se poursuit. Le siège de Paris a duré 4 mois et 12 jours. Le bombardement, un mois entier. Depuis le 15 janvier, la ration de pain est réduite à 300 grammes. La ration de viande de cheval depuis le 15 décembre n'est que de 30 grammes. La mortalité a plus que triplé. Mais au milieu de tant de désastres, il n'y a pas eu un seul jour de découragement.
On nous permettra du reste pendant 20 à 25 jours de manger ce qui nous reste de vieux chats, de rats et d'ours. Mais plus le moindre repas après le vote aux comices. Oh zut à ton armistice, Bismarck, nous n'en voulons pas. Bazaine se rend, qu'importe, nous conserverons Verdun. Nancy peut ouvrir sa porte, on s'illustre à Châteaudun. À tout la Strasbourg, tu n'as pas un homme pour complice. Oh zut à ton armistice, Bismarck, nous n'en voulons pas. Nous nous levons tous en masse pour répondre à l'insolent. Pas un ne fait la grimace, qu'il soit rouge, noir ou blanc. Fier de courir au combat pour l'honneur et la justice. Oh zut à ton armistice, Bismarck, nous n'en voulons pas.
Le gouvernement a beau affirmer qu'il n'y avait pas d'autre solution que la capitulation, beaucoup de Parisiens ne sont pas convaincus. Quoi qu'il en soit, selon un témoin, la nouvelle de la conclusion de l'armistice fait sortir, comme de dessous terre, toutes sortes de produits alimentaires dont on ne soupçonnait pas l'existence. Aux Halles, le prix des légumes subit une baisse considérable. Des élections législatives sont organisées très vite, le 8 février, puisque selon les termes de l'armistice, une assemblée nationale doit voter la poursuite de la guerre ou l'établissement de la paix. L'assemblée élue est majoritairement royaliste et pacifiste. que Paris a été ravitaillé, tout le monde se remet au travail, y compris les artistes. Le Ménestrel explique que les directeurs de théâtre prévoient qu'une foule d'étrangers va s'abattre sur Paris et leur feront une bonne clientèle. On nous donne le détail. Dès le 12 février, les concerts populaires donnent une séance de réouverture. Et vers le 18 ou le 19, les journaux recommencent à donner un programme des spectacles. Sur celui du 19, nous voyons reparaître la Comédie française avec ses spectacles diurnes, l'opéra avec ses concerts, le Palais Royal, les variétés, la gaieté avec les matinées littéraires de Monsieur Balande, les bouffes parisiens et les délassements comiques. Dès le surlendemain, c'est-à-dire le 21, 6 théâtres, l'Ambigu, Cluny, les Folies Marigny, les Menus Plaisirs, Beaumarchais et les Folies Bergères sont venus se joindre aux précédents. Le programme du concert de Padeloup du 12 février ressemble beaucoup à ce qu'il donnait dans les saisons précédentes. Deux ouvertures françaises, de Hérold et Aubert, et les préludes de Liszt, encadrent une symphonie de Beethoven ainsi que des extraits de Mendelssohn et de Mozart. La victoire prussienne n'a rien changé à la présence à Paris de la musique allemande. Les concerts de l'opéra, eux aussi, continuent sur la lancée des soirées du siège de Paris. Les pièces au programme sont toujours celles du grand opéra français, souvent de compositeurs étrangers, italiens pour le Contori, Rossini, ou allemands pour le prophète, Meyerbeer. Pour les Français, évidemment, Aubert est toujours représenté, ainsi que Halévy, dont La Juive reste un des grands succès de la maison depuis la monarchie de Juillet.
Je suis aux flammes arrachées.
Eh bien,
réponds, ma fille, existe-t-elle encore?
Oui.
Dieu, où donc est-elle? Où donc est-elle?
Là.
Thank you.
Début mars 1871, peu à peu, tous les théâtres annoncent leur reprise, y compris ceux qui étaient restés fermés pendant le siège et dont les programmes n'affichent pas généralement le même caractère de gravité que ceux de l'opéra ou de la comédie française. C'est ainsi que sont prévues la reprise de « Si j'étais roi » d'Adolphe Adam à l'Athénée et de « Zampa » de Hérold à l'Opéra Comique. En février et mars 1871, les théâtres parisiens s'apprêtent donc à rouvrir. Mais comme le rappelle le Ménestrel, déjà les préoccupations politiques étaient grandes. La fameuse affaire des canons de Montmartre effrayait tous les esprits et bientôt la victoire du comité central et la retraite du gouvernement régulier à Versailles venaient arrêter tout ce beau mouvement. Plusieurs théâtres qui avaient prévu d'ouvrir le 19 mars, finalement, jettent l'éponge. C'est qu'en effet, la veille a eu lieu à Montmartre une action du peuple de Paris contre l'armée régulière qui s'est ralliée à lui. Les ouvriers, artisans et petits commerçants, qui représentent plus du quart de la population, ont décidément trop souffert et depuis longtemps. Quelques décisions ont été prises récemment qui ont aggravé leur situation. L'Assemblée a voté la fin du moratoire des dettes et des loyers. Ils devront tout payer immédiatement, alors que sans travail pendant le siège, ils ont épuisé leurs maigres économies quand ils en avaient. De plus, le traitement des membres de la garde nationale a été suspendu. Et surtout, après qu'ils aient poussé à la déchéance le régime de Napoléon III et proclamé la République en septembre, ils se retrouvent depuis février avec un gouvernement monarchiste décidé à maintenir l'ordre d'une main de fer. Au matin, c'est le soulèvement à Montmartre et à Belleville. Dans la journée, Adolphe Thiers et ses ministres se replient à Versailles. Avant minuit le même jour, l'hôtel de ville est occupé. Le comité central de la garde nationale s'y installe. Des élections auront lieu le 26. La commune sera proclamée le 28 mars.
Par les rhéteurs subtils et fins, par les refus de la curule, les bourgeois monnayaient d'affront, les fesses criaient peu sur qui bouge, Versailles riait, cette gouge, toi tu pleurais la honte au front. Allez aux grandes guerres rouges.
Dès sa proclamation, la commune, après les mesures d'urgence prises pour aider les plus pauvres, va établir son programme démocratique. Le 20 avril est publiée une déclaration au peuple français, dans laquelle sont affirmés les éléments de son programme. Elle demande la reconnaissance et la consolidation de la République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits du peuple et le développement régulier et libre de la société. L'autonomie absolue de la commune, étendue à toutes les localités de la France et assurant à chacune l'intégralité de ses droits, et à tout Français le plein exercice de ses facultés et de ses aptitudes comme homme, citoyen et travailleur.
Les voyez-vous, ces mille braves, marcher à l'immortalité? Le maître a vendu ses esclaves et nous chantons la liberté. Et nous chantons la liberté. Non plus de roi, plus de couronne, assez de sang, assez de deuil. Que l'oubli dans son froid linceul enveloppe sceptres et trônes. Chantons la liberté, défendons la cité, marchons, marchons, sans souverain, le peuple aura du pain.
L'unité politique, telle que la veut Paris, dit la déclaration de la Commune, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles en vue d'un but commun, le bien-être, la liberté et la sécurité de tous. La révolution communale, commencée par l'initiative populaire du 18 mars, inaugure une ère nouvelle de politique expérimentale, positive et scientifique. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie, ses malheurs et ses désastres. La commune entend bien être responsable du bien-être de la population, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. Il faut donc réunir les artistes en vue d'organiser leur participation au bien commun. Le journal officiel annonce que le 10 avril, les auteurs, compositeurs, artistes dramatiques et lyriques, réunis sous la présidence du citoyen Pacra, ont procédé à la nomination des cadres de la compagnie dite « la Fédération artistique ». La dite fédération voudrait faire en sorte de donner des représentations et des concerts au profit des veuves et orphelins de la garde nationale. Elle souhaite pour ce faire la participation de tous les artistes disponibles. « Depuis le 18 mars, il n'y a plus de concert à l'opéra. Mais justement, la commune s'avise qu'on pourrait y donner quelques représentations patriotiques. Le 1er mai, tous les artistes présents à Paris sont réunis dans le foyer de la salle de la rue Le Pelletier. Ils sont reçus par Albert Régnard, secrétaire général de l'ex-préfecture de police, assisté du jeune Raoul Pugnot, pianiste et compositeur, 19 ans, tout juste sorti du conservatoire. Régnard demande, je cite, « de renouveler les belles représentations qui furent données en 1793 ». Il précise « des chants patriotiques de Gossec feraient partie du programme, car il est bon de ranimer l'ardeur de ceux qui combattent et de réveiller le patriotisme qui, malheureusement, faiblit chez certains citoyens. Ces représentations pourraient se renouveler et venir en aide au personnel de l'opéra qui, plus particulièrement, a beaucoup souffert par suite des événements politiques ». La statue de la liberté de François-Joseph Gossec, le chœur et l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Catherine Déretté pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.